Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons parler d'un thème. Est-ce qu'on peut me baisser un peu? Nous allons parler d'un thème intitulé « La foi est l'acceptable ». La foi est l'acceptable. Nous allons expliquer. Au fond, chaque être humain, en fonction de ce qu'il a entendu autrefois. Disons même chaque chrétien. Là, on va parler plus des chrétiens. Mais bon, ça peut concerner aussi tous les humains. Chaque humain, en réalité, croit en ce qu'il s'est construit comme doctrine, comme logique. Pour trouver des gens qui croient en Dieu tel que Dieu l'entend, c'est très, très difficile. C'est très difficile. Même dans Luc 18, Jésus dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur terre ?» Croire simplement tel que Dieu demande, ce qu'il a dit, considérer que c'est vrai, on ne rencontre pas régulièrement des gens comme ça. En réalité, chaque être humain a en quelque sorte sa doctrine qu'il s'est construite au fil des années en écoutant certaines personnes, en allant, en vivant certaines réalités. Il y a un schéma qui se met en place en nous, inconsciemment. C'est ce que j'appelle l'acceptable. Donc on devient, on a des frontières, des limites liées à notre culture, lié à notre passé chrétien, lié à ce qu'on a entendu. Donc si quelqu'un est dans une église où on lui a dit que les miracles se sont arrêtés en 1850, cette personne grandit avec cette pensée-là. Pour lui, pour cette personne, l'acceptable, c'est qu'il n'y ait pas de miracle. Si on parle de miracle, ce n'est plus acceptable. Voilà notre thème, c'est la foi et l'acceptable. Nous devons choisir entre la foi et l'acceptable. Dieu veut nous amener dans la vraie foi. La vraie foi ne dépend pas de ce que je me suis construit inconsciemment comme doctrine, mais ça dépend de ce que Dieu a dit dans sa parole. Ce que Dieu a dit, j'y crois. Voilà la vraie foi. Et malheureusement, il y a très très peu de gens qui croient aussi simplement, je dirais, excusez-moi le terme, aussi bêtement. L'être humain a sa propre doctrine, a sa propre logique. Ce n'est pas pour rien que, à chaque fois que Dieu a envoyé des serviteurs, ils ont créé des problèmes. Moïse a créé des problèmes à Dieu pour accepter son appel. Il a dit, mais je suis incapable, je ne sais pas parler. Mais Dieu dit, mais attends, c'est la personne qui a créé la bouche qui t'envoie. Donc comment tu peux dire, je ne sais pas parler? Donc pour Moïse, ce n'était pas acceptable qu'il puisse parler puisqu'il était, il avait des difficultés à parler. Mais Dieu lui dit, mais le problème n'est pas, ça ne repose pas sur tes difficultés. Le problème, tu devrais réfléchir, mais c'est qui m'envoie? Au fait, c'est ça notre thème. Nous devions réfléchir sur Dieu lui-même et non pas réfléchir sur nous. Réfléchir sur ce que nous considérons comme acceptable. Dans Ésaïe 55, 8 à 9, Dieu dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » À partir de ce moment-là, nous devrions lutter chaque jour contre nos pensées. Puisqu'il dit clairement que nos pensées ne sont pas ses pensées. Nous devions lutter contre nos pensées et à chaque fois, confronter nos pensées à la Bible. Que dit la Bible ? Les pensées, ça peut être vraiment, ça peut être aussi le fruit d'une pression démoniaque. Vous savez, quand les démons nous font une pression, on peut produire des raisonnements. Vous savez, des gens, des héros comme Jean-Baptiste, à un moment donné, ils ont eu des problèmes. Jean-Baptiste en prison, à un moment donné, il a douté. Mais est-ce que c'est vraiment Jésus? Vous comprenez, si quelqu'un de la taille de Jean-Baptiste arrive à douter, ça veut dire que la pression démoniaque peut nous produire des pensées. Et on commence à douter de ce qu'on croyait avant. Et Jésus a fait la démonstration, il a dit aux gens que Jean-Baptiste avait envoyés pour demander si c'était bien lui. Il a fait des miracles extraordinaires. Il a dit, allez dire à Jean-Baptiste, ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu, des aveugles voir, des sourds entendre, et la parole de Dieu est annoncée aux pauvres. Donc, c'est pourquoi Dieu a pitié de nous. À chaque fois, il nous relance par sa parole, parce qu'il sait que nous sommes faibles. Face à des pressions, on peut changer de logique, on peut changer de pensée. Face à une expérience négative, on peut changer de logique, on peut changer de pensée. C'est pourquoi notre prédication, c'est lutter contre l'acceptable. Il faut que nous ayons la véritable foi, qui ne dépend pas de ce qui est acceptable par notre raisonnement, par notre cerveau, mais de ce que Dieu dit lui-même. C'est ça notre thème, parce que Dieu ne peut pas faire des exploits avec des gens qui sont dans l'acceptable. Il ne peut pas fonctionner avec des gens qui sont mal acceptables. Il ne fonctionne qu'avec des gens qui croient en lui. Le juste vivra par la foi. C'est dit. Nous allons prendre quelques cas, hein, pour être concret, de cas où nous voyons des gens céder à l'acceptable ou bien avoir du mal à croire à cause de l'acceptable, afin que nous puissions comprendre le sujet comme il faut. Quitter l'acceptable pour entrer dans la foi en Dieu. Sans cela, nous disons, nous sommes clairs là-dessus, sans cela, ce n'est pas la vraie foi. Heureusement, nous sommes sauvés par grâce. Il suffit de croire en Jésus pour être sauvés. Mais si nous voulons briller, produire des fruits immenses sur terre, il nous faut la foi que nous allons prêcher aujourd'hui. Une foi qui ne dépend pas de l'acceptable, une foi qui est simple, qui fonctionne en fonction de ce que Dieu dit. Dieu ayant fait ses preuves, nous ne demandons pas de croire en Dieu bêtement. Dieu dit dans sa parole qu'il a déjà fait ses preuves à travers la création. Il a déjà fait ses preuves. On peut estimer qu'il est grand à travers tout ce que nous voyons. Mais il a fait bien d'autres preuves. Donc nous le savons, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Dans sa parole et dans ses miracles, il montre toujours combien il est grand et puissant. Et nous commençons par l'acceptable lié à la création. Nous lisons dans Hébreux au chapitre 11. Hébreux au chapitre 11. À partir du premier verset, d'ailleurs ça va encore nous redéfinir, c'est que la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc c'est ça la foi, c'est l'assurance de quand Dieu dit quelque chose qu'il va faire. Donc nous espérons, nous comptons sur ce qu'il a dit, nous croyons que ce qu'il a dit va s'accomplir. Verset 3 maintenant. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Premier problème qui bloque certains chrétiens, qui bloque beaucoup de chrétiens, c'est la difficulté à croire que tout a été fait par la parole de Dieu. C'est dû à quoi? C'est dû à nos études. En allant à l'école, on nous a enseigné que les choses ont commencé par le Big Bang, par une concentration forte de chaleur qui a produit de l'énergie, qui a créé, voilà. J'ai envie de dire par n'importe quoi, parce que finalement, c'est n'importe quoi qui a créé tout ce que nous sommes, quoi. Et c'est n'importe quoi. C'est-à-dire une énergie qui crée tout ce que nous sommes. Est-ce que c'est logique? Voilà, ce n'est pas logique. Il faut beaucoup de foi pour être athée. Croire que de rien, par hasard comme ça, les choses se sont produites. Il faut beaucoup de foi pour croire en cela. Mais nous avons l'explication. L'explication, c'est dans la Bible, Dieu a parlé. Vous savez, on peut même, si nous devrions débattre ça dans le domaine scientifique, nous pouvons même, avec le domaine scientifique, démontrer que c'est Dieu qui a fait les choses. Mais ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, ce n'est pas ce que nous voulons communiquer. Nous voulons communiquer le fait de croire en Dieu puisqu'il est Dieu, tout simplement. Nous ne voulons pas faire des explications parce que les explications vont encore créer de l'acceptable. Parce qu'aujourd'hui, le niveau qu'a atteint la physique quantique, ça démontre partout, il y a des livres qui sortent dans le monde entier qui montrent que il n'y a plus d'autre explication que l'existence de Dieu. Parce que le niveau qu'a atteint la physique quantique est tellement au-delà de ce que les raisonnements humains peuvent concevoir que les physiciens sont d'accord dans la plupart, sauf les gens de mauvaise foi, pour dire que finalement, c'est Dieu qui est derrière tout ce que nous voyons. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Le sujet est le suivant, c'est que Dieu dit tout simplement qu'il a parlé. Il y a eu les étoiles, il a parlé, il y a eu la lune, le soleil, il a parlé. En fait, tel que Genèse nous expose les choses, c'est ça. Il faut croire en cela. C'est vrai, vous allez suivre des documentaires, vous allez suivre des scientifiques qui vont vous dire « Mais non, ça fait des millions d'années, comment la Bible peut dire cette chose ?» Tout cela est explicable, même scientifiquement. Mais comme j'ai dit, nous ne sommes pas dans une université pour débattre scientifiquement, nous sommes dans l'école de Dieu pour nous apprendre à marcher par la foi. Le Seigneur veut nous apprendre à marcher par la foi et non par les yeux. Or, la science, c'est les yeux. Dieu veut nous apprendre à marcher par la foi. Si il nous a créés, si il existe, il peut tout faire tel que lui-même l'a dit. Il a dit, j'ai parlé, c'est pourquoi vous voyez tout ce que vous pouvez voir. Et donc, un chrétien qui épouse des idées du genre, nous sommes venus d'une bactérie qui s'est transformée, des idées fausses et folles, aura du mal aussi dans sa vie chrétienne. Il aura du mal parce que tout son schéma de fonctionnement se construit sur base de ce qu'il a appris à l'école. Or, Dieu, lui, il est capable d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est ce que nous venons de lire dans Hébreux 11. Il est écrit, je vais relire ce qu'on a lu, verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Donc, quand maintenant Dieu va te donner un ordre, mais si Dieu a déjà du mal à croire que la création vient de lui juste par l'ordre, comment tu vas croire que cet ordre-là va se réaliser? C'est pourquoi, puisqu'on a beaucoup de versets à lire, certains versets, je vais les citer comme ça, le cas d'un monsieur, d'un soldat, le centenier romain, dans Luc chapitre 7. Il avait un serviteur malade. Pour vous donner la différence entre la foi et le raisonnement et l'acceptable. Il avait un serviteur malade. Il envoie des gens dire à Jésus, est-ce que tu peux venir guérir mon serviteur? Et les gens convainquent Jésus de venir. Pendant que Jésus est en train de se diriger vers sa maison, il renvoie des gens dire, mais Seigneur, excuse-moi, je te fais déplacer alors que tu es le Seigneur. Tu es Dieu. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Mais puisque tu es Seigneur, tu peux donner un ordre et mon serviteur sera guéri. Parce que moi, je donne des ordres à mes soldats et ils obéissent. Et toi, tu peux donner des ordres à tout et ça va obéir. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ce jour-là ? Même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Donc, quelqu'un qui croit tout simplement que ce que Dieu dit, ça va se faire. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé. C'est ce que j'ai dit au début en introduction. C'est difficile de trouver des gens avec la foi simple. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. C'est très difficile. Nous sommes formatés, nous sommes influencés par des années d'études, par des années d'église, par des années d'expérience personnelle, d'échecs personnels. Et quelque part, nous nous sommes construits une forme de doctrine personnelle, ce que j'appelle l'acceptable. C'est-à-dire que quand maintenant Dieu dit ce que lui, il pense, on dit « Ah non, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. » Voyez, Jésus a félicité ce centenier parce qu'il a cru. Comme on croit lorsque nous pensons que c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre par sa parole. Il a dit, mais puisque tu as fait les cieux et la terre par ta parole, tu peux guérir mon serviteur par ta parole aussi. Tu peux donner un ordre. Les mêmes choses que tu as créées en lui, tu peux les redresser. C'est aussi simple que ça. Voyez, et Jésus a dit, cet homme a une foi extraordinaire. J'ai souvent donné le conseil suivant, si nous voulons imiter des gens, imitons les gens que Jésus lui-même félicite. Si tu veux être un vrai chrétien, ben imite les gens que Jésus lui félicite comme vrai chrétien. Et Jésus félicite ce monsieur-là. Donc, première chose, nous devons affronter l'inacceptable selon lequel ce n'est pas possible. Tout n'a pas été créé en sept jours. Ce n'est pas possible. Les appareils montrent des millions d'années, des étoiles de milliards d'années. Mais comment la Bible dit en sept jours? Mais il faut qu'on affronte ça en disant oui, c'est vrai. Dieu a créé en sept jours. C'est ce qu'il dit, je crois. Voilà. C'est une étape à franchir. Il faut avoir la foi dans ce que nous venons de lire dans Hébreux 11, 3. Nous croyons que Dieu, par sa parole, a dit que les choses soient, elles furent. Ça, c'est le premier point. Est-ce que notre culture, notre passé, nos limites aussi, nous pousse à dire, mais c'est pas possible quand même, c'est trop fort. Mais oui, mais si c'était pas trop fort, en quoi Dieu sera Dieu, si nous sommes au même niveau que lui? Tu veux que ce que Dieu fait puisse être acceptable par ton cerveau, donc tu as le même niveau que Dieu. Non, nous n'avons pas le même niveau que Dieu. Nous sommes un élément de ce que Dieu a fait, donc nous ne pouvons pas être comme lui. Non, ne soyons pas surpris, c'est pourquoi c'est écrit dans la Bible, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant de la part de l'Éternel? Ne soyons pas surpris que ce que lui dit nous dépasse. Nous retrouvons l'orgueil premier qui consiste à rivaliser avec Dieu, l'orgueil de notre ancêtre Adam, qui a voulu être l'égal de Dieu. Nous n'acceptons pas qu'il fasse des choses inacceptables pour nous. Mais lui dit, mais c'est comme ça. Il faut croire que tout ce qui a été fait, ça a été fait par ma parole. Deuxième élément, nous passons à Luc 7, 36 à 50. Luc 7, 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfum. Voilà la situation, et puis le diacre frère va continuer, de 38 à 50. La situation, nous voulons lire la situation, c'est quoi? C'est qu'il y a une femme que nous pensons, quand on dit de mauvaise vie, ça veut dire forcément, ça ne veut pas dire une femme qui querelle, parce que presque toutes les femmes font des querelles, mais donc ça veut dire, si on dit de mauvaise vie, donc forcément, ça doit être lié à la prostitution. Donc ça devait être une femme prostituée. Dans d'autres versions, c'est dit, voilà, donc là, c'est dit une femme de mauvaise vie. Voici une femme pécheresse, donc de mauvaise vie, qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Voilà. Maintenant, nous lisons la suite. Est-ce que c'est acceptable qu'une telle femme entre dans ce lieu-là? Est-ce que c'est acceptable?
Et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit : Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit : Tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon : Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. »
Amen. Les gens qui étaient là disent, « C'est inacceptable qu'une femme prostituée entre dans ce lieu quand même. » Déjà, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes. Et en plus, c'est des hommes pieux, des hommes saints. Comment une femme de mauvaise vie peut entrer dans ce lieu ? Pire encore, cette femme touche Jésus quand même. Et Simon dit, mais ce monsieur-là semble avoir la révélation. Comment il ne sait pas à qui il a affaire ? Alors que ça, c'est visible qui est cette femme. Comment il peut laisser cette femme le toucher ? Comment ? Et ça va encore plus loin, Jésus va pardonner les péchés de cette femme. Alors là, les gens disent, mais non, c'est inacceptable. Il n'a pas le droit de pardonner les péchés de cette femme. C'est inacceptable. Voilà, nous devons choisir entre la foi et l'acceptable. C'est très difficile de penser que les mauvais peuvent être sauvés. C'est difficile. Nous avons quelque part notre classement dans la tête à cause de notre passé, à cause de la culture, à cause des expériences vécues, à cause de ce que les gens disent. Nous avons notre classement de méchanceté. Et dans notre classement, une prostituée, c'est quand même très, très grave. Vous savez, il y a des étapes, dans le mal. Passer de voler une banane dans un supermarché à braquer une banque avec une cagoule, c'est quand même une étape que tu franchis. C'est pas pareil. Hein. C'est pourquoi les gens qui franchissent ces étapes, ils vont très loin dans le mal parce que c'est des étapes très, 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 très élevées. Toucher une prostituée, donc faire des affaires avec une prostituée, ou bien se prostituer, c'est une étape aussi, hein. c'est pas donné. Vous savez, même dans le mal, il y a des niveaux. Il y a des gens qui sont revenus au bien parce qu'ils n'ont pas su continuer dans le mal. Il est arrivé un moment où on lui a dit, tu dois tuer un tel. Il a dit, je ne peux pas. Il a fait toutes sortes de méchancetés, mais quand il est arrivé au moment où on lui a dit, là, tu dois tuer, il a dit, non, je ne peux pas. Donc, dans le mal, il y a des niveaux où l'être humain, même sans qu'il soit chrétien, même sans qu'il soit converti, il se dit, là, je ne peux pas. Mais ton enfant doit mourir, il dit là, je ne peux pas. Parce que ça atteint un autre niveau. Et la prostitution fait partie des niveaux. Hein. C'est-à-dire que en arrivant à vendre son corps, ce n'est pas simple. Même pour les humains normaux, ce n'est pas simple. C'est quand même une étape grave. Ce qui fait que dans la société, donc c'est des gens qui sont considérés comme perdus à jamais. Mais là, Jésus nous montre que non. Son sacrifice à lui à la croix est plus grave que le péché de cette femme-là. Le sacrifice de Jésus est un grand tonneau qui peut en avaler tous les péchés du monde entier. Donc c'est un tonneau infini. C'est tellement grave ce qu'il a fait pour nous à la croix. Le Fils de Dieu sans péché qui est mort à la croix, ce sacrifice-là efface n'importe quel péché. Mais pour les êtres humains, c'est inacceptable. Mais comment une prostituée? C'est ça notre deuxième point. Le premier point, c'est accepter la version de Dieu par rapport à la création. Deuxième point, c'est accepter, croire en la version de Dieu par rapport au pardon des péchés. Jean 3,16, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 5,8 nous dit ceci, à peine mourrait-on pour un homme bon, mais alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. À combien plus forte raison que nous sommes sauvés, il nous gardera près de lui. Nous devons croire en la capacité de Dieu de sauver n'importe qui de ses péchés. Il y a un autre exemple dans la Bible, dans Jean 8, en ce qui concerne la femme adultère. Les gens voulaient la lapider, mais Jésus l'a sauvée. Jésus a dit, moi je ne te condamne pas. Voilà. Donc nous devons entrer dans la dimension divine en ce qui concerne le pardon des péchés. Sinon tu ne peux pas fonctionner avec Dieu. Parce que les gens même que Jésus était venu sauver l'ont crucifié. Vous pensez que si nous n'entrons pas dans sa dimension, nous pouvons faire l'évangélisation réelle? Non. Parce que les gens que tu vas évangéliser, il y a certains qui vont te gifler. Tu vas faire quoi? Les gens comme les John Patton, il vient évangéliser les gens dans les îles du Pacifique. Eh bien, sa femme meurt. Et ces gens-là que lui, il est venu évangéliser, tournaient autour du cercueil pour essayer de manger sa femme. Donc lui, il est resté sur la tombe de sa femme pendant 3 jours parce qu'il savait que c'est des cannibales. Ils vont déterrer pour manger. Il est resté là. Mais il est venu pour eux. Hein? Il est venu les évangéliser. Mais si tu n'as pas accepté la notion, tu n'as pas cru à la logique de pardon telle que Jésus expose ça, est-ce que tu peux faire ce travail d'évangélisation? Tu ne peux pas. Si nous voulons être serviteurs de Dieu, si nous voulons travailler avec Dieu, nous devons croire qu'il peut pardonner n'importe quel péché. Quand nous avons fait le concert à Lausanne, on nous a volé un téléphone portable. On peut arrêter le concert. Mais ils volent en plus, on arrête. Mais non. Qu'est-ce qu'un téléphone portable devant une âme à sauver? Pour Dieu, cette femme-là avait une très très grande importance puisque Jésus allait mourir pour elle à la croix. Mais pour les humains qui étaient là, c'était la prostituée du coin de la rue. Il faut que nous franchissions ces étapes-là où nous comprenons la profondeur, la grandeur du pardon de Dieu. Le pardon de Dieu est très grand. Le sacrifice de Jésus est très grand. Il peut effacer n'importe quel péché. Il faut que nous croyions en cela. Sinon, nous ne ferons rien avec Dieu. Nous serons bloqués par nous-mêmes. Tu veux avancer? On te rappelle que tu t'es fâché hier, tu ne peux plus rien faire. Le diable te ramènera toujours en arrière. Mais quand tu crois au sang de Dieu, au sang de Jésus, au pouvoir du sang de Jésus, vous savez le chant qu'on chante, son sang m'a purifié, son sang m'a purifié, son sang m'a purifié, et Satan ne peut m'accuser. Si tu n'as pas la notion du sang de Jésus, tu ne feras rien parce qu'il te rappellera n'importe quoi. Que tu aies demandé pardon ou pas, lui va te rappeler. Mais quand tu connais le pouvoir du sang de Jésus, tu dis, il n'a plus aucun droit. Tu continues ton chemin. Nous ne pouvons pas travailler pour Dieu si nous ne mesurons pas la puissance du pardon du Seigneur. Nous devons entrer dans la vraie foi et sortir de l'acceptable humain. Vous savez, il y a un humain que tout le monde détestait dans un pays d'Afrique. Il a fait des casses, il a tué des gens. Et quand on l'a attrapé, on l'a enchaîné à un gros morceau de béton et on l'a noyé. Et pendant qu'il se noyait, il a vu Jésus-Christ sur la croix, qui est descendu de la croix, qui lui a enlevé les chaînes. Il a dit, moi je te pardonne. Il est sorti. Et dès qu'il est sorti, il a commencé à circuler dans tout le pays, expliquer l'amour de Jésus, le pardon de Jésus. Mais vous voyez, c'était tellement fort tout ce qu'il avait fait dans le passé que les gens l'ont tué finalement. Parce que les gens n'acceptaient pas qu'un tel homme soit pardonné. Attention au jugement, bien-aimé. Dieu peut pardonner n'importe qui. Très important. Troisième élément concernant la foi et l'acceptable, ça se trouve dans Romains 11, 1 à 5 et puis 25 à 36. Romains 11, 1 à 5 et puis 25 à 36.
Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce.
Amen. Premièrement, Dieu dit, je n'ai pas rejeté mon peuple, Israël. Voilà. Tout porte à croire que Dieu ne peut pas, ce n'est pas acceptable quand on suit les infos, ce n'est pas acceptable quand on suit les accusations sur Israël, ce n'est pas acceptable de se dire que cette terre-là et ce peuple-là a été choisi par Dieu. Ce n'est pas acceptable par rapport à la pression ambiante. Mais Dieu dit, mais moi je ne les ai pas abandonnés. Nous devons faire le choix entre l'acceptable et la vraie foi dans ce qui est écrit. C'est un choix à faire. Nous continuons 25-36.
Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur prière. Pardon, à cause de leur père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur et qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen.
Amen. Voilà la réalité. Dieu dit, l'apôtre Paul dit, attention à vous paraître comme sage avec des grands raisonnements. Mais il y en a un qui a dit, je crois que l'Israël de Dieu, c'est l'Israël d'autrefois de la Bible. Ce n'est pas cet Israël-là. Mais bien aimé, l'Israël de la Bible n'est pas meilleur que celui-ci. Et combien de fois Dieu a puni Israël de la Bible? Combien de fois ils ont été même déportés? Combien de fois Dieu ne les a-t-il pas punis? Vous oubliez même l'épisode où Dieu, Moïse a dit à chacun que chacun tue sa famille, chacun tue ses frères. Combien de fois Dieu ne les a-t-il pas punis? L'Israël d'aujourd'hui n'est pas différent. Dans sa rébellion vis-à-vis de l'Évangile, il n'est pas différent de l'ancien Israël. Mais Dieu dit, mais c'est mon choix, à cause de leur papa, il dit, mais à cause de leur père, ils sont bien aimés, puisque David, Abraham, au moment, étaient fidèles, alors que vous, les non-juifs, vous adoriez les statues, vous adoriez les idoles, leur papa, eux, ils m'ont adoré, moi, l'Éternel. C'est pourquoi je garde ma fidélité vis-à-vis de leur fils. Et il dit encore quelque chose de plus grave. Il dit, Dieu a permis leur désobéissance pour qu'ils soient mis entre parenthèses pendant un temps afin qu'ils s'occupent de nous, les non-juifs. Il dit, leur désobéissance a été notre salut. Donc le fait qu'ils ont rejeté le Messie, la mission du Messie s'est détournée sur nous. Donc leur désobéissance a été un avantage pour nous. Finalement, Dieu n'a eu le regard que sur nous pour travailler avec son fils. Il dit, si vous qui étiez autrefois des barbares spirituels, vous avez été sauvés, pensez aussi que eux aujourd'hui, dans leur barbarie spirituelle vis-à-vis de Christ, ils seront sauvés aussi un jour par miséricorde. La même miséricorde qui vous a sauvés, la même miséricorde les sauvera. Arrêtez de vous prendre pour des sages. Arrêtez de vous prendre comme pour des gens spirituels. Le frère Paul dit, attention. Et vous savez, quand vous lisez tout le chapitre romain, il explique, il dit, vous êtes l'olivier sauvage. Eux, c'est l'olivier pur. Nous avons été branchés, coupés, hantés, donc greffés sur l'olivier pur. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui ils rejettent le Seigneur que Dieu les a oubliés. Dieu ne les a pas oubliés. C'est pas parce qu'il y a des problèmes à Gaza, des tueries à Gaza, que Dieu a oublié son peuple. Non. Dieu n'est pas d'accord avec plein de choses qu'ils font, mais de même, Dieu n'est pas d'accord avec plein de choses que nous faisons, bien-aimés. Est-ce qu'il nous a rejetés? Non. 1 Jean 1,9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si Dieu, si ce que nous jugeons sur Israël, nous l'appliquons à nous-mêmes, qui sera sauvé? Personne. C'est ce qui est écrit. Si Dieu, psaume 32, si Dieu tenait compte de l'iniquité, personne ne serait sauvé. Nous sommes tous sauvés par miséricorde. Mais pourquoi nous voulons juger ceux qui se comportent mal en disant qu'ils ne méritent pas l'alliance de Dieu? Mais qui mérite l'alliance de Dieu? Personne. C'est par miséricorde. Le frère Paul dit, attention, ne vous prenez pas pour sage. Bien-aimé, je sais que c'est très difficile avec la pression d'aujourd'hui de tenir un tel discours, mais restons dans la vérité, restons dans la foi en Dieu. Ne nous laissons pas dribbler par l'acceptable. L'acceptable nous trompera, l'acceptable nous éloignera de Dieu. Mais la Bible, la vraie foi dans les Écritures nous rapprochera de Dieu et nous ferons des exploits avec le Seigneur. Il faut que notre foi soit totale. Dernier point sur l'acceptable, dernier point que j'ai préparé en exemple, mais il y a plein de choses sur l'acceptable et la foi. Nous lisons dans Jean 5, 5 à 8. Jean 5, 5 à 8.
Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. »
En même temps, cet homme a été guéri, il s'est levé, il a pris son lit, il a commencé à marcher. Mais revenons à la question de Jésus, à cet homme. Veux-tu être guéri? Le monsieur ne dit pas oui. On dit de lui qu'il était là depuis 38 ans. 38 ans, attendant la guérison. Mais est-ce qu'il avait la vraie foi? Il ne l'avait plus trop. parce qu'il était dans un calcul. Parce que nous n'avons pas lu tout le texte. Le calcul était le suivant. Dans ce lac-là, dans cette piscine, soit prétendument un ange venait bouger l'eau. Et quand l'ange bougeait l'eau, le premier qui sautait dans la mare, dans la piscine, était guéri. Bon, lui, il était paralytique. Comment? Il avait besoin d'aide pour y plonger. Mais est-ce que le sourd qui voit la piscine bouger va attendre qu'on aide l'autre? Il va sauter avant. Hein? Celui qui a un problème de peau, il voit l'eau bouger. Est-ce qu'il va attendre qu'on ramasse un monsieur-là? Il va sauter même un bond de 5 mètres. Hein? Il plonge dans l'eau. Donc ce monsieur, après 38 ans, sa conclusion, c'était, c'est impossible. J'attends, hein? Mais j'attends seulement quoi. C'est pourquoi quand on lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, ah, c'est compliqué. C'était plus acceptable pour lui. Voilà, certains échecs, certaines réalités difficiles peuvent nous forger une logique comme quoi je ne peux plus être libéré, je ne peux plus être guéri. C'est impossible telle chose. Au fait, un refus des miracles. Notre Dieu est un Dieu des miracles. Mais on peut en arriver à dire, bah, j'ai voulu que... On avait notre sœur ici, on a prié pour sa résurrection, ça n'a pas eu lieu. J'ai vu mon frère mort, dans mon cœur j'ai prié pour sa résurrection, ça n'a pas eu lieu. Ben, tu peux décider que ben, c'est des miracles d'autres temps. Mais je refuse ça, ce n'est pas la Bible. La Bible dit, allez guérissez les malades et ressuscitez les morts. Peu importe ce que j'ai vécu, je ne suis pas un croque-mort. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Je ne suis pas appelé à enterrer les gens, mais à les ressusciter. Donc je crois que oui, c'est un temps difficile, mais Dieu n'a pas changé. Voilà. Nous n'allons pas nous créer une logique en disant, ah ben, c'est des miracles d'autrefois. Non, Jésus-Christ peut ressusciter les morts encore aujourd'hui. Cet homme était découragé par 38 ans. 38 ans de maladie. Et le schéma de guérison était impossible. C'était impossible. Mais lisons encore. Et lui-même, il dit, ben, j'ai du mal. Mais Jésus a eu pitié de lui. Il lui a communiqué la foi. Il a guéri quand même. Voilà. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, si tu étais dans un blocage, hein, en te disant, ça fait trop longtemps, et même malgré la prédication, tu ne sens pas la foi germer. Viens quand même toujours à Jésus. Quand on va faire la prière, il aura pitié de toi, il agira. Voilà. Nous allons lire Jean 11, où nous voyons encore, les gens disent, mais non, mais ce n'est pas acceptable. Jean 11, 20 à 45.
Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. »
Voilà. Jésus dit à Marthe, « Ton frère qui est mort, ça fait 4 jours. » Ben, je suis venu le ressusciter. Marthe dit oui, mais au dernier jour, quoi, la résurrection finale. Ce n'était pas acceptable pour elle. C'était trop au-dessus de ses pensées. Mais oui, mais c'est ça la foi en Dieu. Aller au-dessus de nos pensées, au-dessus de nos raisonnements, c'est ça la foi en Dieu. Être fou, la foi en Dieu, c'est la folie. Voilà, nous lisons, nous continuons.
Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde.
Mais voilà, est-ce que c'est la question qu'on lui a posée? Non. On a dit, est-ce que tu crois que je peux ressusciter? Je suis la résurrection. Est-ce que tu crois en tout ça? Est-ce qu'on peut relire cette partie-là?
Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?»
Voilà ce qu'on lui demande. Est-ce que tu crois que celui qui croit en moi vivra même s'il meurt? Je suis la résurrection, donc je peux donner la résurrection à l'instant. Dis non, mais je crois que tu es le Messie. On cherche des échappatoires parce que ce n'est pas acceptable pour nous. Ce miracle-là n'est pas acceptable. Aujourd'hui, nous devons être libérés de l'acceptable. Entrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur, dans sa dimension à lui. Continuons.
Verset 27, elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé dans un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. »
Amen, amen. Voilà, Marie, quand il entend Jésus dit « Enlevez la pierre », il dit « Mais il sent déjà. » Qu'est-ce que tu peux faire? Ce n'est pas acceptable, une résurrection d'un tel mort. Ça fait quand même 4 jours. Et ça, c'est ce que nous pouvons dire côté physique. Mais côté spirituel, les Juifs estimaient qu'après 4 jours, l'esprit d'un mort ne pouvait plus revenir. Ça, c'est côté tradition juive, culture juive. Pour eux, quand tu étais, des résurrections pouvaient se faire par hasard, entre guillemets, si tu étais mort avant 4 jours. Mais après 4 jours, ton esprit était déjà, c'était déjà fini. Mais Jésus-Christ remet l'esprit de Lazare qui reprend vie, alors qu'il devait sentir normalement, tout son corps est reconstitué. Nous devons croire au miracle. C'est ça le dernier point qu'on a prévu en exemple long. Aujourd'hui, croire au miracle. Nous ne devons pas fonctionner comme les gens du monde, dépendants de la médecine, dépendants de l'argent de la fin du mois, dépendants. Nous devons croire que l'argent peut sortir d'un poisson. Nous devons croire que, comme le George Miller, tu pries, il n'y a rien du tout. Il y a des orphelins à nourrir. Il est réuni à table. Il prie. Il dit, Seigneur, merci pour le petit déjeuner. Quand ils finissent de prier, quelqu'un frappe à la porte, c'est le laitier qui amène le lait. Quand le laitier finit, un autre frappe à la porte, c'est le boulanger qui amène du pain. C'est de la réalité, puisque quelqu'un y a cru. Puisque quelqu'un a cru. Quelqu'un est sorti du schéma normal où il faut avoir l'argent pour faire les choses. Pour acheter, il faut avoir l'argent pour acheter une maison, il faut avoir l'argent. Non, là, c'est quelqu'un qui a dit, c'est Dieu qui donne. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons croire au miracle. De tous les genres de miracles, Jésus a fait tous les genres de miracles. Il a dit, silence, la tempête s'est arrêtée. Nous ne devons pas, à moindre goutte d'eau, nous fuyons la scène. J'ai oublié, dans l'un des endroits de nos missions, on était quelque part, mais il y a eu comme on devait faire des choses, il y a eu le nuage, le ciel qui s'obscurcit de gouttes d'eau. Moi, j'ai dit, c'est impossible, ça ne peut pas être au-dessus de nous, moi, je reste. J'ai été trempé un peu, mais ça s'est arrêté. Voilà. Ça n'a pas duré. Juste ce qu'il faut pour nous impressionner. Moi, j'ai dit, je refuse d'être impressionné par ce qu'on m'a envoyé être le maître. Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus a dit, ce que nous demanderons en son nom, il fera ça. Il a dit dans Jean 14, 12 à 14, vous ferez les mêmes choses que moi, vous en ferez même de plus grandes. Or, lui, il a dit à la tempête, silence. La tempête s'est arrêtée. Tais-toi, les vagues se sont arrêtées. Et pourquoi ça serait différent pour nous? Il ne faut pas fuir à la moindre alerte. Il faut rester là. C'est l'esprit qui doit nous conduire, non les éléments, non l'acceptable. On se dit, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Oui, ce n'est pas acceptable, mais c'est possible en Dieu, en Jésus-Christ. Je finirai en disant, le paradis, ça existe. Même si c'est contre nature, on n'arrive pas à imaginer un endroit où on ne meurt plus, on ne tombe plus malade. Tel que la Bible décrit le paradis, on a du mal à accepter que ça existe. Mais pour ceux qui sont simples, quand ils voient le paysage, quand ils voient certains temps que nous vivons sur terre, ils comprennent que le paradis existe. Mais Satan est là pour te dire, crée ton paradis ici sur terre, pour te tromper. Alors que tu devrais utiliser tes capacités terrestres pour ton paradis, pour construire ta maison au ciel, avec Jésus. Mais lui te dit, mais le paradis c'est ici. C'est une erreur. Le paradis n'est pas ici. Le vrai existe. Vous savez, moi j'ai eu du mal à accepter que l'enfer existe. Tel qu'il est décrit dans la Bible. Nous revenons toujours à la Bible. Un endroit où on souffre éternellement. Au fait, moi, mon équation, ce n'est même pas la souffrance. Mon équation, c'est que ça ne finira jamais. Alors, ce n'est pas acceptable par le cerveau que les gens soient dans une douleur. Des milliards, des milliards, des milliards d'années, ça ne finit pas. Le cerveau ne l'accepte pas. Mais aujourd'hui, je suis passé par la foi pour l'accepter. Et je suis à l'aise avec ça. Puisque je ne suis plus passé par le cerveau, mais par la foi. Bien-aimés, nous avons le choix entre la foi et l'acceptable. Les grands maîtres des calculs pour joindre les deux bouts, il faut faire le choix entre la foi et l'acceptable. Tu es toujours stressé financièrement, c'est que tu n'as pas encore fait le choix entre la foi et l'acceptable. Parce que Dieu dit, mais les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils sont heureux. Mais comment toi, l'être humain créé à mon image, tu peux stresser? C'est que tu n'as pas la foi en moi. Les gens qui sursautent quand ils voient quelqu'un oublier d'éteindre la lumière. Il sursaute, il a déjà calculé la fin du mois, l'électricité. Attends. Toi, un être humain, tu commences à sursauter pour tout et pour rien. Non, je ne dis pas qu'il faut faire du gaspillage, mais il faut être dans la paix des gens dont Dieu s'occupe. Dieu s'occupe de moi. Hein? J'aime le chant. Dieu voit ma vie entière. Il a son plan d'amour sur moi, sur ma carrière. Il veille chaque jour. Voilà. Vivre dans cet esprit-là. Ici-bas, bonheur suprême. Avec Dieu, je ne crains rien. Il fait tout puisque je l'aime. Concourir à mon seul bien, c'est cette foi-là que Dieu veut pour nous tous. Vivre tranquille, la foi dans les miracles du Seigneur. Et ces miracles peuvent se produire chaque jour. Jean 20, 30 à 31 dit que Jésus a fait beaucoup de miracles. Et Jean 21, 30 le dit aussi, que à tel point que les livres du monde entier ne pourrait pas les contenir. Mais le peu que nous ont laissé les apôtres, c'est pour nous apprendre à croire en Jésus, le Fils de Dieu. Et en lui, en croyant en lui, que nous ayons la vie. C'est ça. Nous devons chasser la mort. Nous devons vivre par la foi désormais et ne pas se laisser dominer par l'acceptable. Voilà. Et aujourd'hui, on peut avoir des difficultés à démontrer le paradis, démontrer l'enfer, démontrer qu'Israël est le choix de... On peut avoir certaines difficultés à démontrer la création de ce que j'ai cité, mais nous avons une chose que nous pouvons démontrer, la guérison et les miracles. Voilà. Si nous avons des difficultés pour le reste, mais Dieu nous a laissé des signes. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ce que... C'est pourquoi, pour que nous démontrions, comme dit le frère Paul dans 1 Corinthiens 2, que notre foi ne repose pas sur les raisonnements humains, mais sur la puissance invisible de Dieu. Et il nous a laissé les miracles et les guérisons pour démontrer cela. Donc, ça doit être l'objectif du chrétien que d'expérimenter ces choses, parce que c'est là qu'il montre la différence d'une religion normale, où on parle de morale, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, et la vraie foi qui vient de Dieu, qui crée des choses qui n'existent pas. Entre l'acceptable et la vraie foi, les miracles vont faire la différence. Comme quand Nicodème arrive voir Jésus, il dit, Jésus, je viens m'humilier devant toi, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il ne vient de Dieu. Voilà. Un grand docteur, le plus grand docteur de l'époque, il s'est humilié devant Jésus. Parce qu'il a dit, mais non, lui ne fait pas que parler comme moi. Quand il parle, ça crée des choses. C'est ça la différence. Donc là, nous allons prier pour ceux qui sont malades. Voilà, donc je vais inviter l'équipe de louange à chanter. Et puis, j'inviterai aussi ceux qui ont besoin d'une prière lié à un miracle. Ça peut être la guérison, ça peut être la délivrance. Voilà, ça peut être aussi des difficultés administratives, mais si vous avez besoin d'une prière qui va démontrer la puissance de Dieu, qui est au-dessus de l'acceptable, ben, il n'y a pas de problème, vous passez devant, je vais imposer les mains, conformément à ce qui est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. Voilà, que Dieu soit béni. Seigneur, je viens prier pour la plénitude du Saint-Esprit au milieu de nous. Merci de nous remplir de ton esprit de feu, de puissance, qui n'a plus, qui enlève la peur, qui enlève la timidité, qui enlève les doutes, Seigneur. Je prie pour la plénitude du Saint-Esprit ce matin au milieu de nous. Glorifie ton nom. Que la plénitude du Saint-Esprit apporte des appels dans le cœur, apporte le feu nécessaire pour avancer avec toi, dans le nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen.